Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit.
Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. Tressaillez de joie avec elle, vous qui avez été dans la tristesse, afin que vous exultiez et soyez rassasiés de l'abondance de ses consolations. Mes très chers frères, nous voici parvenus à la mi-carême. La moitié de notre voyage est déjà accomplie, et l'Église nous ménage ce dimanche, nous dit un auteur, comme une oasis où nous pouvons respirer et refaire nos forces. Tout dans les textes de la messe d'aujourd'hui, spécialement dans les textes intermédiaires, dans l'introït, le graduel, le trait, etc., tout nous porte à la joie, mais une joie grave, une joie fondée sur la vertu d'espérance, une joie qui ne dissipe pas, mais qui porte à persévérer. Alors nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, nous allons voir ce que saint Paul nous enseigne sur les deux alliances. Nous allons voir ce qui les distingue, ce qui les unit. Nous allons voir aussi diverses choses qui sont contenues dans l'Épître. Dans le deuxième point, nous traiterons de la joie que produit en nous l'amour de l'Église. Et nous nous poserons la question, sommes-nous de la Nouvelle Alliance ? Et nous verrons aussi un moyen de le vérifier. Et nous terminerons brièvement par quelques considérations. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Vous connaissez, mes très chers frères, l'histoire de notre père Abraham. Abraham était un homme qui vivait en Ur, dans la ville d'Ur, en Chaldée, auquel Dieu a dit de sortir de cette ville et de s'en aller, et qu'il le conduirait, qu'il ferait de lui une grande nation, et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, en sa descendance. Nous savons que la femme d'Abraham, Sarah, ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Et nous savons aussi que Dieu a promis plusieurs fois à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation, de telle sorte que d'un côté il y avait les promesses de Dieu, que Dieu lui faisait, et de l'autre côté il y avait le fait expérimental qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme. De telle sorte qu'à un certain moment, par un jeu de choses possibles qui existaient à l'époque, eh bien Abraham a eu un enfant de sa deuxième femme, Agar, qui était la servante de Sarah, de telle sorte qu'il a eu un fils, et ce fils, c'est Ismaël. Et ce fils était un fils qui a fini par être renvoyé de la famille d'Abraham avec sa mère, Agar, pour diverses raisons, et une des raisons, c'est que, pour deux raisons. La première, c'est que ce n'était pas le fils que Dieu lui avait promis, et deuxièmement, ce fils persécutait le fils que Dieu avait promis à Abraham et qu'il finit par lui donner, et qui était Isaac. Vous savez, vous connaissez cette histoire. Vous savez aussi que lorsque Dieu est venu, la Très Sainte Trinité s'est manifestée à Abraham sous la forme de trois anges qui sont venus pour examiner la cité de Sodome et de Gomorre et les autres, et pour pouvoir les détruire selon le dessein de Dieu. Eh bien, dans le cas de cette histoire, le Seigneur a dit à Abraham qu'il aurait l'année suivante un fils de sa femme Sarah. Et vous savez que Sarah, qui a entendu ces paroles, a ri. Elle a ri de ce bonheur de se savoir bientôt mère. Et il se trouve que le rire de sa mère a donné son nom à celui qui devait s'appeler Isaac, mystérieusement. Donc il y a dans l'histoire d'Abraham deux fils. Un fils qui est le fils de l'esclave, le fils d'Agar, la servante de Sarah, et il y a le fils qui est le fils donné par Dieu, qui est le fils de la femme libre, le fils de la femme, à proprement parler, d'Abraham, qui est Sarah. Deux femmes, nous dit donc saint Paul, par allégorie, deux femmes font les deux alliances. Il y a deux versants, nous disent les écrits, la théologie, il y a deux versants dans ce qu'on appelle l'histoire du salut. Il y a la synagogue d'un côté, et c'est l'histoire de l'Église avant la venue de notre Seigneur, et il y a l'Église, à strictement parler, qui est le corps du Christ, le corps mystique du Christ, que le Christ a mis au monde au moment de sa crucifixion, lorsque Saint Longin lui a percé le côté. La synagogue et l'Église, sous un certain rapport, c'est la même chose. Et sous un autre rapport, ce sont deux choses qui ne sont pas tant différentes que deux alliances qui sont distinctes. La première alliance a été scellée par Moïse avec le don de la loi lors de la première Pentecôte sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, nous dit saint Paul, est une montagne en Arabie, c'est-à-dire à l'extérieur de la Terre Sainte, sur laquelle, au pied de laquelle les Hébreux sont arrivés pendant leur pérégrination dans les 40 ans du désert, après la sortie d'Égypte. Et c'est une montagne donc sur laquelle Dieu s'est manifesté d'une façon très spéciale et il y a donné les tables de la loi, il y a révélé la loi à Moïse par l'intermédiaire des anges, de telle sorte que les Hébreux ont entendu et vu les manifestations de Dieu qui consistaient essentiellement dans des éclairs, des tonnerres, des paroles effrayantes, et toute la montagne était ébranlée en même temps que la nuée recouvrait la montagne. Les Hébreux, nos pères, ont été si effrayés de cette vision terrifiante du Dieu législateur, qu'ils ont demandé à Moïse que Dieu ne leur parle plus directement, mais qu'il lui parle à lui, Moïse, et que Moïse revienne à eux afin de leur expliquer ce que lui enseignait Dieu. Et Dieu a trouvé que cette attitude était bonne. Nul ne pouvait approcher de la montagne lorsque Dieu s'y manifestait, et même si un animal s'approchait de la montagne et la touchait, il devait être lapidé, donc a fortiori les hommes, mais cela n'est pas arrivé grâce à Dieu. Sur le Sinaï a été fondée la première alliance, c'est-à-dire l'alliance, encore une fois nous l'avons dit, au cours de laquelle Dieu a donné la loi sur les tables de pierre. En quoi consistait cette loi? Elle consistait en plusieurs choses, mais nous dirons que aujourd'hui, pour simplifier, nous dirons que c'était une loi qui interdisait le péché. Ce n'était pas, à strictement parler, une loi nouvelle qui n'avait jamais été entendue par l'homme autrefois, jusque-là, mais c'était la loi qui est résumée dans les 10 commandements, mais avec toutes les autres lois aussi, et puis les lois cérémonielles, les lois de purification, toutes les autres lois qui étaient liées à la loi de Moïse. C'était une loi qui, dans son ensemble, interdisait le péché. Toute loi interdit le péché. Et c'est pour cela que, par exemple, dans cette loi, il y a un certain nombre de commandements négatifs. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. C'est une loi qui interdisait le péché. En cela, elle est véritablement une loi. Mais il se trouve que, dans l'Ancienne Alliance, cette loi, en interdisant le péché, et en définissant ce qui était péché, excitait la concupiscence de l'homme. Car cette loi ne s'accompagnait pas du don de la grâce qui seule permet d'exécuter la loi dans son esprit, c'est-à-dire en vue de la fin. Il fallait bien commencer par quelque chose, dirons-nous, et il fallait commencer par poser d'une part la loi, et d'autre part faire que cette loi manifeste quelque chose qui était profondément caché dans l'homme, et qu'ils appellent la concupiscence. La loi ne manifeste pas simplement la concupiscence en disant « tu ne suivras pas la pente de la concupiscence ». La loi, à strictement parler, ne s'intéresse pas tellement à la concupiscence qu'elle s'intéresse à la justice, à strictement parler. Donc il se trouve que le premier effet, l'effet principal de la loi de Moïse, et qui se vérifie durant tout le temps de l'Ancienne Alliance, c'est qu'elle, paradoxalement, c'est qu'elle excite la corruption. La loi, dit Moïse, dit saint Paul, n'est pas mauvaise en elle-même. Une loi, en réalité, une loi qui aurait favorisé la concupiscence aurait été très, très fidèlement suivie par l'homme. Donc la loi n'est pas mauvaise en elle-même. La loi est bonne, la loi est sainte. La seule chose, cette loi, donnée sans la grâce du médiateur, sans la grâce du rédempteur, du réparateur de la nature humaine, ne pouvait qu'exciter la concupiscence. Alors, la question qui se pose est la suivante, pourquoi est-ce que Dieu a donné une loi sans donner, en quelque sorte, la force qui permet d'obéir de cœur à la loi? Eh bien, mes très chers frères, c'est très simple et l'Écriture nous le dit. C'est qu'il fallait faire connaître à l'homme ce qui était en l'homme et ce dont il était capable. Ça aurait été, en quelque sorte, mettre un emplâtre sur une jambe de bois, si vous me permettez l'expression, que de donner à l'homme la loi de concert avec la grâce du médiateur. Cela n'était pas strictement possible, puisque le médiateur n'était pas encore donné. Et il se trouve même que pour que le médiateur fût donné, et que l'on puisse comprendre pourquoi nous avions besoin du Messie, du Rédempteur, il fallait qu'auparavant, la loi fût donnée, en premier. La loi a donc pour fonction, sinon pour but, mais à moins dans l'Ancienne Alliance, a pour fonction de manifester à l'homme son propre cœur. Elle montre l'homme à lui-même. De telle sorte que la loi, formulée sur telle qu'elle a été, sur les tables de pierre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc., tu ne feras pas d'idole, tu observeras les jours de fête, tu ne te tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'impureté, etc. Tout ceci, finalement, avait pour but de montrer à l'homme combien il était mauvais. Car il y a le péché originel. Le péché originel a beau, à l'époque de la loi, déjà être un fait déjà ancien. Le péché originel corrompt la nature humaine. Le péché originel touche tous les hommes, puisqu'il n'y a absolument aucun homme qui naît et qui est né à partir du péché sur terre, qui est né et qui n'ait pas été touché par le péché originel. Bien entendu, excepté la Sainte Vierge qui a été préservée en vertu de l'application anticipée des mérites de son Fils. Mais il se trouve que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La loi a manifesté la concupiscence, c'est-à-dire la manifestation concrète, si l'on peut dire, du péché originel. Le péché originel, ce n'est pas simplement une déformation native de l'homme avec laquelle il vivrait, un petit peu comme quand on est boiteux, eh bien on s'y fait et puis on mène une vie comme relativement normale, même si on a un peu cette claudication, mais à vrai dire, on s'adapte à tout, Dieu merci. Donc l'homme est bien fait. Non, l'homme touché par le péché originel, marqué, souillé par le péché originel, se comporte d'une façon qui est contraire à la nature humaine et contraire aux intérêts de la nature humaine, c'est-à-dire contraire à la volonté de Dieu, telle que Dieu l'avait quand il a créé l'homme. Pour que l'homme puisse être absolument certain qu'il est mauvais, puisse être absolument certain qu'il naît avec le péché originel, qu'il naît non seulement souillé par le péché originel, mais déformé et porté au mal par le péché originel, il fallait que la loi lui fût explicitement énoncée, révélée, de telle sorte qu'en interdisant le péché, elle excite la concupiscence et que cette concupiscence puisse être mise en évidence. Elle montre l'homme à lui-même et elle le montre à lui-même tel qu'il est, c'est-à-dire corrompu, déformé, porté au mal positivement par la concupiscence. La loi naturelle, ce qu'on appelle la loi naturelle, et qui n'est autre que les 10 commandements, est assez forte pour condamner tout homme par sa conscience. C'est-à-dire que les Hébreux, nos pères dans le désert, ont reçu la formulation explicite et indubitable de la loi naturelle. Ils savaient qu'il fallait adorer Dieu. Si on est un homme, il faut adorer Dieu. Si on est un homme, il faut observer tout le culte qui est dû à Dieu. Si on est un homme, c'est-à-dire un être humain, il ne faut pas voler, il ne faut pas donner de mauvais témoignages, il ne porter de mauvais témoignages, il ne faut pas convoiter, il ne faut pas commettre des choses répréhensibles vis-à-vis de sa femme, etc. Donc il se trouve que il est impossible, grâce à la loi de Moïse, il est impossible de méconnaître le contenu de la loi naturelle. Les païens qui n'avaient pas la loi autrement que les vestiges des législateurs anciens de Noé, en particulier Sem, Cam et Japhet, qui n'avaient pas la loi de Moïse, n'étaient pas non plus dépourvus d'une législation qui ressemblait grandement à la loi de Moïse. Mais il se trouve qu'un certain nombre, certains commandements leur étaient inconnus. La convoitise n'est pas interdite. Si l'adultère est interdit par la plupart des lois, enfin même par toutes les lois des païens, la convoitise ne l'est pas, à strictement parler. Le fait d'aimer Dieu, comme une loi, c'est le premier commandement, n'était pas prescrit. En revanche, le fait d'observer les fêtes de la religion de la cité était prescrit. Donc, vous voyez, les païens connaissaient suffisamment la loi naturelle pour pouvoir être, comme dit saint Paul, sans excuse, inexcusable, et en même temps, cette loi naturelle était trop faible, elle était suffisamment forte pour rendre tous les hommes inexcusables, ne serait-ce que par le témoignage de leur conscience, mais cette loi naturelle était trop faible par elle-même pour porter l'homme à la vertu méritoire. Nous savons qu'il y a eu des païens vertueux, mais lorsque nous examinons comment ils ont pratiqué leur vertu, on s'aperçoit que il ressemble à peu près à un chrétien exténué qui ferait les choses d'une façon plus ou moins catholique, si j'ose dire, de telle sorte que les meilleurs, les plus grands et les meilleurs païens ressemblent à de très mauvais chrétiens, en réalité, mais des très mauvais chrétiens qui feraient quand même quelques efforts, vous voyez, du point de vue de la réalité. La loi naturelle est assez forte pour faire condamner l'homme devant Dieu, de façon indubitable, mais elle est trop faible pour le porter à la vertu méritoire. En elle-même, elle ne peut que énoncer ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est bien. Elle ne peut que condamner ce qui est faux, injuste et mauvais, mais elle ne peut pas donner la force de l'observer elle-même de telle sorte qu'elle puisse produire une vertu qui soit méritoire à salut. Agar, nous dit saint Paul, Agar représente les forces de la chair, représente la confiance en soi. Elle représente aussi l'espérance temporelle. Nous y reviendrons. Nous savons, et il faut être très respectueux envers notre père Abraham, mais nous savons que Abraham, en épousant Agar et en ayant un fils d'elle, a en quelque sorte il a été conseillé dans ce sens par Sarah, et il a agi selon, si j'ose dire, selon la raison. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un Dieu qui existe vraiment, d'un côté, vous avez un Dieu qui est bon, qui est fidèle, vous avez un Dieu qui a fait une promesse, c'est-à-dire qu'il deviendrait un grand peuple, qui lui donnerait un fils, qui serait la source d'un grand peuple, et d'un autre côté, vous avez une situation familiale fermée, c'est-à-dire la femme d'Abraham, Sarah, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, si on voulait rendre Dieu véridique, il fallait donc rationnellement faire en sorte qu'Abraham puisse avoir un enfant. Abraham s'est donc marié avec Agar, il a eu un enfant, c'est Ismaël, son fils premier-né, c'est Ismaël, et il se trouve que selon la raison, selon Agar, selon les épousailles avec Agar, eh bien la promesse de Dieu a été accomplie. Il se trouve que Moïse nous dit que si Dieu a permis que les choses se passent ainsi, qu'Abraham fasse cette erreur relative, eh bien c'est que, tout ayant été écrit pour notre instruction, nous devons comprendre que sous un certain rapport, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais sous un certain rapport, la confiance en soi, une démarche qui serait en quelque sorte purement fondée sur la raison, autant que l'homme peut l'utiliser, et je ne dis pas que la raison est mauvaise, mais je dis une démarche fondée entièrement sur la raison d'un homme qui s'imagine pouvoir tout faire avec sa raison, eh bien, cela ne peut produire que quelque chose selon la chair. C'est un fils qui n'est pas un fils petit, puisque Ismaël sera lui-même à l'origine de toutes sortes de tribus et de royaumes, ce sont les tribus d'Ismaéliens, des Ismaélites, les Arabes en réalité en général, qui descendent d'Abraham par Ismaël. Il se trouve que Ismaël, qui n'est pas rien, n'est rien au point de vue de la volonté de Dieu. C'est un fils que Abraham s'est donné selon la chair, et ce n'est pas le fils selon l'esprit. Et même, par la suite, nous verrons que cette carnalité d'Ismaël fera qu'il persécutera Isaac, de telle sorte que, eh bien, lui et sa mère seront expulsés de l'Église, du cercle de l'Église, de la tribu d'Abraham, de la famille d'Abraham, de cette proto-Église, par l'ordre de Dieu même. Donc Agar, vous voyez mes très chers frères, ce sont les forces de la chair, c'est la confiance en soi, c'est l'usage de la raison pour arriver à des fins que seul Dieu peut garantir. C'est l'homme qui réalise par lui-même les promesses de Dieu comme si Dieu proposait et l'homme devait réaliser. Je ne dis pas que les promesses de Dieu ne sont pas réalisées par ceux auxquels elles s'adressent, ce n'est pas cela, mais elles sont réalisées selon Dieu. Elles peuvent être réalisées de deux façons, selon la chair ou selon l'esprit. Selon l'esprit, ça signifie conformément à la volonté de Dieu, selon la chair, conformément à la volonté de l'homme. Il y a donc dans cette figure allégorique d'Agar quelque chose qui est en rapport avec la volonté propre et la confiance que l'homme, dans le bon sens du terme, si vous voulez, et la confiance que l'homme a envers ses propres forces. Lorsque Saint Paul nous montre Agar comme étant la synagogue, comme signifiant la synagogue en général, c'est-à-dire l'ancienne alliance, Saint Paul ailleurs nous montrera que les Hébreux ont commis une erreur fondamentale, qui est une erreur qui était en même temps une erreur nécessaire, mais ils ont commis une erreur fondamentale au début de la première alliance. C'est-à-dire que lorsque Dieu eut manifesté et révélé sa loi par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a demandé aux Hébreux s'ils voulaient s'engager à observer tous les commandements de cette loi, de telle sorte qu'ils soient son peuple et qu'ils soient leur Dieu. Et les Hébreux ont dit, spontanément et avec une grande générosité, ils ont dit qu'ils s'engageaient solennellement à observer toute la loi. Ensuite, lorsque les Hébreux ont été sur le point d'entrer dans la terre promise sous la conduite de Josué, il y a eu un renouvellement de cet engagement à observer la loi, assorti d'un grand nombre de malédictions très solennellement formulées, de telle sorte que les Hébreux se sont répartis en deux cœurs, si l'on peut dire, qui sont montés sur deux montagnes. Une montagne édictait la loi et une montagne édictait les malédictions contre ceux qui transgressaient la loi, de telle sorte que les Hébreux ont renouvelé cette alliance avec Dieu, au cours de laquelle, ou dans laquelle, dans les termes de laquelle, ils s'engageaient solennellement à mettre en pratique tous les commandements, sans en excepter aucun, de la loi de Moïse, de telle sorte que Dieu, eh bien, les bénisse à la hauteur de leur obéissance et de leur fidélité. Ce fut une erreur fondamentale et c'est en quelque sorte la caractéristique de l'ancienne alliance. Quelle erreur ! La loi de Moïse, alors c'est une erreur de bonne foi si l'on peut dire, mais c'est une erreur quand même. La loi de Moïse est bonne en elle-même, mais sans la grâce du Rédempteur et du Réparateur, elle s'adresse à un homme corrompu. Elle s'adresse à un homme qui est incapable d'user droitement de sa volonté pour le bien. Et s'il use de sa volonté pour le bien, il est incapable d'y persévérer toujours. Celui qui transgresse un seul commandement a transgressé toute la loi, dit l'Écriture. Les Hébreux, en conditionnant les bénédictions divines, en acceptant ce conditionnement des bénédictions divines à l'observation de toute la loi, se sont en quelque sorte engagés dans une promesse qui dépassait de loin leur force. Regardez, immédiatement après que les Hébreux aient conclu cette alliance avec Dieu, encore dans le désert, immédiatement après, Moïse remonte sur la montagne pour obtenir d'autres commandements, des explications de la loi, etc., pour obtenir spécialement les tables. Et immédiatement, les Hébreux, ne voyant plus Moïse, font une idole et en quelque sorte inventent un culte qu'ils décrètent être, ou qu'ils identifient avec le culte du vrai Dieu. Ils ne disent pas « renonçons au Dieu d'Abraham », ils disent « nous allons faire une image du Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte et nous allons faire une liturgie à laquelle a participé et qu'a présidé Aaron le grand prêtre qui venait juste d'être sacré grand prêtre ». Cela nous montre, mes très chers frères, que la loi étant bonne en elle-même, c'est l'homme qui est mauvais. L'homme est incapable d'obéir à la loi parce que l'homme n'est plus ce qu'il était au commencement. Cet engagement téméraire des Hébreux montre que la loi a été un pédagogue qui devait nous conduire vers le Christ. Les Hébreux auraient dû, s'ils l'avaient pu, ils auraient dû dire « Mais nous sommes et nous nous reconnaissons incapables d'obéir à tous ces commandements. Donnez-nous un cœur nouveau. » Mais comment aurait-il pu le demander s'il n'avait pas encore fait l'expérience terrible de la corruption totale de l'homme, de la concupiscence, de cette force qui, quoique l'homme désire le bien, lui fait faire le mal. Comment l'aurait-il pu? Il fallait que pendant un certain nombre de siècles, il fasse l'expérience de l'impossibilité d'obéir à tous les commandements de la loi ensemble et en même temps, par leur propre force. C'est pour cela que les prophètes, après que le peuple hébreu et le peuple juif aient fait l'expérience de cette incapacité, de cette impuissance à observer la loi, les prophètes ont commencé à leur parler d'un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, c'est la grâce du réparateur qui devait le leur donner. C'est pour cela que Agar, cette femme charnelle d'Abraham, eh bien, représente l'esclavage de l'homme qui est l'homme de l'homme dans l'ancienne alliance, l'esclavage à la loi, c'est l'obéissance qui n'est capable que d'une obéissance servile. Il n'est capable que d'obéir à Dieu, sous un certain rapport et jusqu'à un certain point, que par la crainte des châtiments. Et encore, nous voyons que, tout au long de l'histoire des Hébreux, la crainte des châtiments n'a pas non plus beaucoup retenu nos pères, puisqu'ils craignaient un petit peu, et puis immédiatement après, ils se mettaient à servir les idoles, ils se mettaient à transgresser la loi de Dieu, de telle sorte que Dieu les châtiait, ensuite ils criaient vers Dieu, Dieu les délivrait, et ils retombaient dans leurs anciennes habitudes de désobéissance. Au mieux, la loi telle qu'elle est capable de susciter une obéissance servile, qui est une obéissance qui va jusqu'à un certain point, qui freine en quelque sorte la concupiscence, mais qui ne la surmonte certainement pas. Cette obéissance peut être aussi motivé par des récompenses temporelles qui sont liées à l'observation de la loi. Mais il se trouve que, dit saint Paul, il se trouve que la Jérusalem d'en haut, qui est symbolisée par Sarah, la femme libre d'Abraham, notre père Abraham, c'est celle qui est notre mère, c'est-à-dire elle est l'Église. Agar représente l'ancienne alliance, qui n'enfante que pour la servitude, tandis que Sarah représente la nouvelle alliance, celle qui donne à Dieu des enfants selon la promesse, selon son cœur. Ce sont bien des enfants que Dieu avait dans l'Ancien Testament, mais ce sont des enfants esclaves. Dans le Nouveau Testament, ce sont des enfants fils, des enfants libres. Par notre Seigneur Jésus-Christ, est venue la grâce, de même que par Moïse est venue la loi. La loi a été donnée par Moïse afin de révéler la concupiscence et la corruption de l'homme, et la grâce a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné, afin de faire de nous des êtres nouveaux, de nous faire renaître par les eaux du baptême, de telle sorte que nous puissions être des enfants de Dieu qui, aimant notre Père d'un cœur pur et sincère, lui obéissent non plus par crainte, non plus par une crainte servile, mais par la crainte de lui déplaire, qui est, à vrai dire, le fond même de la crainte de Dieu. Sarah, la femme d'Abraham, Sarah, est mère d'Isaac contre toute attente. Il se trouve que, nous disent les commentateurs, Agar était beaucoup plus jeune que Sarah, elle pouvait avoir des enfants, elle a épousé Abraham et elle a eu un fils. Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, et en plus, elle était déjà âgée. Elle est devenue mère, néanmoins, contre toute attente, et c'est en cela que s'est manifestée la réalisation de la promesse faite par Dieu à notre père Abraham. C'est-à-dire que c'est lui-même qui a donné à Sarah la capacité d'avoir un fils, et à Abraham la capacité d'avoir un fils de sa femme. Sarah est donc mère contre toute attente. C'est une sorte de miracle. C'est un véritable miracle que cette dame déjà âgée ait pu avoir un fils. Dieu réalise lui-même sa promesse en donnant à Abraham, par Sarah, un fils qui s'appelle Isaac. Nous savons que ce fils Isaac symbolise lui-même le Christ, puisque dans l'histoire, dans l'épisode du sacrifice d'Isaac par Abraham, le parallélisme est tellement évident avec le Christ qu'il faut vraiment avoir les yeux fermés et un cœur de pierre pour ne pas voir que le Christ est symbolisé et annoncé par Isaac. Nous voyons donc que le Christ qui est symbolisé par Isaac est véritablement celui qui est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham par Sarah, par la réalisation par l'intermédiaire de Sarah de la promesse faite à Abraham. Donc l'ancienne alliance ne faisait que des esclaves et non pas des fils. Ceux qui ont aimé Dieu dans l'ancienne alliance, nous dit notre père saint Augustin, étaient déjà participants de la nouvelle alliance. Il y a plusieurs personnes qui ont aimé Dieu de tout leur cœur. David en est un. Nous parlons simplement de David. David a eu des sentiments, les sentiments déjà dans la nouvelle alliance. Et c'est pour cela que tous les saints de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont aimé Dieu, tous ceux qui ont reconnu leur misère et leur impuissance et qui ont demandé par anticipation la grâce pour être enfants de Dieu, l'ont reçu et ont été les avant-coureurs, si on peut dire, de la nouvelle alliance. C'est pour cela que l'ancienne alliance ne peut pas être rejetée comme étant une fausse et une fausse religion ou une religion périmée, etc. C'est une religion qui est composée des ombres de la nouvelle. Elle est composée des allégories sans lesquelles nous ne pouvons pas comprendre la nouvelle. Vouloir être chrétien tout en rejetant l'ancienne alliance, comme le faisaient les marcionistes par exemple, c'est couper l'arbre de ses racines. Mais, vous le savez, mes très chers frères, et ce n'est pas le sujet de ce sermon aujourd'hui. L'ancienne alliance ne faisait que des esclaves et non des fils. La nouvelle alliance fait des fils. Elle fait des fils qui craignent Dieu et qui lui obéissent d'un cœur sincère. La grâce gratuite du Dieu qui ne doit rien à personne en toute justice ne pouvait être souhaitée, désirée, demander que suite à l'expérience de la concupiscence et de la concupiscence triomphante et de l'esclavage de la concupiscence dans lequel gît l'homme depuis le péché originel. Nous arrivons à notre deuxième point. Dans le deuxième point, nous allons voir maintenant la suite et le développement de ce que nous avons dit. Dans le graduel, mais aussi dans l'intro 8, on nous dit ceci, ou plutôt l'Église nous fait dire ceci. Je fus dans la joie quand on me dit, nous irons à la maison du Seigneur. Que la paix soit dans ton enceinte et l'abondance dans tes palais. Je fus dans la joie quand on nous dit, nous irons à la maison du Seigneur. Abraham a vu mon jour, dit notre Seigneur, et il s'est réjoui. Cette joie dont il est question ici et qui rejaillit un tant soit peu sur la liturgie d'aujourd'hui, sur les ornements d'autel, etc. Il se trouve que cette joie est une joie, comme nous l'avons annoncé, qui nous pousse, qui nous porte à la persévérance, car elle se fonde sur la vertu d'espérance. Je fus dans la joie quand on me dit « nous irons à la maison du Seigneur ». Aller à la maison du Seigneur, c'est devenir l'enfant de Sarah. C'est devenir membre de la Jérusalem d'en haut qui est libre et qui est notre mère. Et c'est pour cela que nous sommes remplis de cette joie d'être chrétiens. C'est pour cela, mes très chers frères, qu'il ne faut pas confondre la joie d'être chrétien au su de l'ancienne alliance et la fierté toute bête d'être chrétien et de se comporter en charnel et finalement en païen. Je fus dans la joie quand on me dit « nous irons à la maison du Seigneur ». Mes très chers frères, que cette joie anticipée du psalmiste soit la nôtre, nous qui vivons après la venue du Christ, après la venue du Messie, après le don du Messie, la révélation du Messie, et qui vivons avec la capacité de recueillir et de bénéficier de la grâce du médiateur, la grâce du réparateur. Je fus dans la joie quand on me dit « nous irons à la maison du Seigneur ». Nous sommes toujours dans la joie parce que cette maison du Seigneur, c'est aussi le ciel, ce n'est pas simplement l'Église, c'est aussi l'Église réalisée, c'est-à-dire le ciel, et nous sommes dans cette joie, sachant que si nous n'avons pas cette joie, nous sommes sans espérance et sans Dieu dans le monde, comme dit saint Paul. Nous sommes dans l'état de païen. L'amour de l'Église est une source inépuisable de joie, de vraie joie. enfants de Dieu par le baptême, nous sommes enfants de Dieu par le baptême, mes très chers frères. Nul ne peut participer à l'Église, ne peut être membre de l'Église sans le baptême, ou comme dit le Concile de Trente, sans le désir explicite du baptême, sans la foi explicite en notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de foi implicite, il n'y a pas de foi dans laquelle on croit vaguement que quelque chose existe là-haut, et puis hop, on est membre de l'âme de l'Église comme cela. Il faut avoir le baptême, ou il faut au moins désirer le baptême, il faut savoir ce que c'est que le baptême, c'est-à-dire la mort à l'ancienne esclavage du diable, et la vie, la renaissance, dans l'état d'enfant de Dieu. Voilà ce qu'il faut savoir pour pouvoir être un membre de l'Église. Nous, par le baptême et dans l'Église, nous y devenons les enfants de la promesse, nous dit un commentateur, parce que nous y allons par la foi. Parce que nous recevons le sceau de la foi, la vérité et le fruit de la justice de Dieu par le sacrement du baptême. Et il se trouve que cette foi est la semence et le germe de tous les biens spirituels et célestes figurés par les promesses faites à notre père Abraham. Mais quelle consolation plus grande encore ont ceux à qui le Saint-Esprit et les miséricordes de Dieu donnent cette confiance au fond du cœur qu'ils sont enfants de Dieu selon la promesse éternelle, selon le décret immuable de l'élection divine. Il y a donc une grande joie à être chrétien, mais on ne peut, mes très chers frères, on ne peut éprouver cette joie d'être chrétien que si on a la connaissance de la nature et du sens de l'ancienne alliance, et si j'ose dire, si on a fait l'expérience de l'ancienne alliance. Quelle est l'expérience de l'ancienne alliance? L'expérience de notre impuissance radicale à faire le bien. Et je pense qu'il n'est personne qui puisse se gargariser du fait que lui est toujours obéi à Dieu. Notre expérience est une expérience de misère, une expérience d'impuissance à faire le bien. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Nous fait dire Saint Paul. Ce sont des paroles que Saint Paul nous met dans notre bouche. Nous faisons bien souvent des choses que nous ne voulons pas faire, alors même que nous savons que nous ne devons pas les faire. Pourquoi? Parce que la concupiscence en nous est forte, elle est plus forte que la charité, de telle sorte que nous nous aimons plus nous-mêmes que nous n'aimons Dieu. Et il se trouve que nous faisons l'expérience de notre impuissance à faire le bien sans Dieu. Notre joie est donc une grande joie, parce que c'est la joie de ceux qui savent que, quelle que soit leur impuissance, la grâce du Rédempteur, la grâce du Réparateur, nous donne une force qui s'appelle la charité, une force qui nous rend capable d'obéir à la loi de Dieu, qui nous rend capable d'obéir à chacun des 10 commandements et de tous les autres, qui les conseils, les préceptes, de telle sorte que nous puissions être indubitablement des enfants de Dieu. C'est une grande joie. Mais c'est une joie encore plus grande, et si l'on peut dire, si on a la première, pourquoi ne pas avoir la seconde, c'est une joie encore plus grande que d'avoir dans le fond de notre cœur la conviction de faire partie des élus de Dieu. Alors vous allez dire, est-ce que vous n'excitez pas plutôt à la présomption ici, c'est le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu, bien entendu. Nul ne peut dire « je suis un élu de Dieu » si, à moins d'en avoir reçu une révélation particulière, ce qui est très rare et qu'il ne faut pas demander, mais nul ne peut le dire, mais nul ne peut dire non plus « Seigneur, aidez-moi » sans se dire que Dieu veut l'aider. On ne doit pas dire, oui, je suis un élu, je ne tomberai jamais. On ne doit pas dire non plus, je suis tellement dans l'incertitude que Dieu m'aime, que je n'ose pas lui demander qu'il m'aide, parce que peut-être qu'il ne veut pas m'aider. Ça, c'est interdit. Il est interdit de dire cela. Pourquoi? Eh bien, parce que, je vais vous dire une chose, si Dieu n'aime pas quelqu'un, cette personne ne pense vraiment pas à Dieu. Dans la mesure où nous pensons à Dieu, dans la mesure où Dieu est dans notre horizon, dans la mesure où Dieu est sous un certain rapport, pas inconnu de nous, ça veut dire que Dieu nous aime, et donc nous ne devons pas désespérer de l'amour de Dieu, sachant qu'il nous a aimés alors même que nous l'ignorions, alors même que nous n'avions pas idée de lui, et alors même que nous étions ses ennemis. Donc vous voyez, mes très chers frères, il n'y a aucune raison de désespérer, il n'y a aucune raison de dire « je suis un damné, tant pis, ça ne vaut plus la peine de continuer ». C'est la témérité inverse, c'est du désespoir. Il nous faut, mes très chers frères, confesser que la loi nous montre notre impuissance à obéir par nos propres forces. Mais il nous faut aussi nous réjouir du fait que nous soyons par le baptême les enfants de la Jérusalem d'en haut, qui est libre, qui est notre mère, de telle sorte que nous puissions obéir à Dieu par cette grâce qui n'était pas dans l'Ancien Testament et qui est désormais dans la Nouvelle. Faisons les œuvres de la foi si nous voulons que cette confiance ne soit pas vaine. Si nous voulons mettre notre confiance en Dieu et nous réjouir de ce que nos noms sont écrits dans le livre de la vie éternelle, dans les lieux célestes, comme dit notre Seigneur et ses apôtres, alors faisons les œuvres de la foi si nous voulons que cette espérance ne soit pas vaine. Le chrétien n'est plus sous la loi mosaïque. Cela est vrai. Mais cela veut-il dire qu'il n'est plus soumis à aucune loi? Certainement pas. Car la loi est immuable. Les 10 commandements, si vous voulez, c'est la loi mosaïque, et donc nous sommes sous un certain rapport, encore sous ces 10 commandements. Nous sommes encore sous la loi mosaïque. Certes, la loi des ordonnances, la loi des types, la loi des figures, des allégories, nous n'y sommes plus soumis, puisque tout ceci a été accompli par notre Seigneur lorsqu'il a dit « Consumat tum est », tout est accompli sur la croix. Il a manifesté le sens et les raisons de l'ancienne liturgie, de l'ancienne discipline, l'ancienne liturgie, lois cérémonières. Maintenant, il se trouve que l'essentiel de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, la loi naturelle, nous y sommes toujours tenus, nous ne sommes plus sous la loi de la concupiscence. C'est-à-dire que, nous n'allons pas d'entrer dans les détails ici, mais il nous faut bien comprendre que lorsque saint Paul dit « vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce », il ne dit pas « il n'y a plus de 10 commandements pour vous ». Il nous dit « vous n'êtes plus sous la loi, sous le rapport de la concupiscence ». Il y aurait bien des choses à dire, il y a des choses merveilleuses qui ont été dites par nos maîtres et nos prédécesseurs. Et c'est le cœur même du christianisme, la différence entre l'Église et la synagogue. Mais il se trouve que nous ne sommes plus sous la loi, sous le rapport de l'impuissance due à la concupiscence. Nous ne sommes plus sous la loi, sous le rapport du pédagogue qui nous mène au Christ en nous montrant combien nous sommes faibles. Nous sommes sous la grâce, nous sommes libérés de la liberté du Christ afin de pouvoir librement, et non plus dans l'esclavage, obéir aux commandements et par là même gagner notre salut, faire notre salut, travailler avec crainte et tremblement à notre salut, comme dit saint Paul ailleurs. Nous ne sommes plus sous la loi de la concupiscence dont Moïse est incapable d'affranchir. Un commentateur nous dit « il n'y a point de vraie liberté pour le bien depuis la chute d'Adam que par les mérites du second Adam. C'est rentrer à nouveau dans la servitude que de s'attribuer la gloire de sa liberté ou d'en abuser contre notre libérateur. » Il se trouve donc, mes très chers frères, que nous sommes par le baptême délivrés de la loi de la concupiscence. Mais sommes-nous vraiment des chrétiens? Sommes-nous autre chose que des membres de la synagogue? Sommes-nous autre chose que des juifs, au sens théologique du terme? Sommes-nous autre chose que des enfants d'Agar? Vous allez dire, mais les enfants d'Agar, nous sommes les enfants de Sarah, nous sommes les vrais juifs, comme dit saint Paul, nous sommes les vrais israélites. Je l'espère, mes très chers frères, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de voir si nous vivons dans la justice, avec l'aide de la grâce du médiateur, ou si nous sommes toujours sous la loi de la concupiscence. Alors, j'allais dire, heureusement, il y a le sacrement de confession pour nous remettre dans la justice. Certes, il y a le sacrement de confession pour nous remettre dans la justice, mais persévérons-nous dans la justice? La justice n'est pas une sorte de réalité en pointillé dans un océan infini de soumission à la concupiscence. Il y a bien des moments où nous tombons, où nous cédons à la concupiscence, hélas, parce que nous ne sommes que poussière, et il y a toujours un moment où nous manquons de vigilance. Mais ça serait plutôt le contraire, en réalité. Et quand nous lisons bien les auteurs orthodoxes, il se trouve que tout le monde admet que le juste tombe sept fois, et qu'il se relève par la grâce de Dieu, cela, sous un certain rapport, se manifeste par un certain nombre de taches sur un vêtement blanc que sert à purifier, à laver, le sacrement de pénitence. Or, il se trouve que malheureusement depuis 300 ans, dû aux doctrines nouvelles qui ont été introduites en particulier par les jésuites, il se trouve que toutes ces doctrines nouvelles, la vie chrétienne est plutôt envisagée comme un vêtement noir sur lequel il y a quelques taches blanches. Et ce sont les moments où, environ pendant un quart d'heure après notre confession, nous sommes en état de grâce jusqu'à ce que nous retombions lamentablement. Sommes-nous dans la nouvelle alliance, mes très chers frères, ou sommes-nous encore des esclaves de la concupiscence et ne valons-nous pas mieux que les membres de la synagogue ? C'est une chose extrêmement intéressante de voir que plus on se gargarise de notre christianisme contre les membres de la synagogue qui existent encore aujourd'hui, qui sont les fils d'Agar et qui sont dans la servitude, plus aussi on bafoue en réalité la grâce du Messie, du Rédempteur, en faisant de ces sacrements d'adjuvant dans une vie de païen. Si nous vivons habituellement dans l'esclavage de la concupiscence, c'est que nous sommes encore sous la loi. Mais le problème, c'est que nous ne sommes même pas juifs, parce que nous ne sommes même pas dans l'ancienne alliance qui a été accomplie et abrogée, en quelque sorte abolie, accomplie par le Christ et qui a, en fondant la nouvelle alliance, en la transformant dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans le rien. Nous sommes dans le néant. Nous sommes dans le paganisme, c'est-à-dire nous sommes dans le pur esclavage du diable. Alors vous allez dire timidement, j'en vois certains qui le disent, mais nous sommes quand même baptisés, certes. Et c'est une grande grâce, c'est pour cela que nous devrions exulter de joie d'être baptisés. Et cette exultation de joie devrait nous faire tirer tout le profit que nous pouvons tirer du baptême qui est le nôtre, au lieu de nous en gargariser stérilement. Vous voyez, mes très chers frères, nous sommes bien plus souvent dans une situation pire, nous chrétiens, que ne l'étaient nos pères dans la synagogue, dans l'ancienne alliance, parce que, ayant reçu la grâce du Messie, l'ayant vu être appliquée à nous par le sacrement du baptême, qui nous a fait passer de la mort à la vie, nous ne l'utilisons pas, ou si peu. Et quand je dis si peu, c'est pire que ne pas l'utiliser, parce que celui qui ne l'utilise pas demeure dans la mort, et celui qui l'utilise peu la profane, en croyant l'utiliser. Alors, je ne dis pas qu'il vaut mieux être mort que profane, je dis que, à choisir, il vaut mieux être vivant. Puisque l'on est baptisé, il faut se réjouir lorsqu'on nous dit, lorsque l'Église nous dit « Allons, nous allons à la maison du Seigneur ». Nous devons tout faire, mes très chers frères, pour mettre à profit la grâce de Dieu, cette grâce imméritée, immense, incompréhensible, inconnue, même au-delà de tout ce que l'on peut souhaiter, cette grâce qui ne peut être comprise que par l'allégorie de cette princesse déjà âgée qui, par miracle, a un enfant. Cette grâce que nous n'étions même pas capables de souhaiter, de désirer et de souhaiter, Dieu nous l'a donnée. Ne soyons plus, comme autrefois, mes très chers frères, des enfants d'Agar et des serviteurs du diable, des esclaves du diable. Je ne dis pas que les enfants d'Agar sont les serviteurs du diable, mais il se trouve que celui qui se complaît à être un enfant d'Agar tombe dans l'esclavage du démon. Et cela nous amène à notre troisième point, brièvement. Il y a une parole de l'Évangile, à la fin de l'Évangile que nous avons lu, l'Évangile de la multiplication des pains, qui doit nous faire réfléchir. Nous n'avons pas eu, dans le cadre de ce sermon, l'occasion de montrer la correspondance qu'il y a entre l'Épître et l'Évangile aujourd'hui. Il y en a une très importante, mais il se trouve que nous avions d'autres choses à vous dire, mes très chers frères. À la fin de cet Évangile, il est dit, ces hommes, ayant vu le miracle qu'avait fait notre Seigneur, disaient « Celui-là est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Mais notre Seigneur, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Mes très chers frères, nous vivons dans un temps d'obscurcissement général de toutes les vérités. Il n'y a pas une seule vérité qui ne soit obscurcie. Non seulement aux yeux des enfants, des hommes en général, mais aux yeux de ceux qui se prétendent chrétiens. Nous aurions bien des choses à expliquer, mes très chers frères, mais selon le format particulier de ces sermons, nous n'avons garde de jeter les perles au pourceau. Disons simplement, mes très chers frères, que face à la néo-église, qui, de la façon la plus explicite, maintenant, si on pouvait en douter il y a quelques décennies, maintenant, on n'a plus aucun doute, et qui range la religion chrétienne parmi toutes les autres, qui s'associe avec non seulement les hérétiques, les schismatiques, mais encore les païens. Enfin bon, on voit des choses tout à fait extraordinaires à notre époque, nous voyons ça de loin, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, face à la néo-église, on parle bien entendu, lorsqu'on se veut orthodoxe, lorsqu'on se veut traditionnaliste, on parle du règne du Christ-Roi. Du règne du Christ-Roi comme la solution à tous les problèmes, à commencer par les problèmes religieux, et puis aussi immédiatement les problèmes socio-économiques et autres. On l'a dit, tout le XXe siècle n'est qu'un grand cri en faveur du règne du Christ-Roi. Or, mes très chers frères, le Christ est roi, ça c'est évident, il l'a dit lui-même. Mais le règne du Christ-Roi n'est pas forcément aussi facile à obtenir qu'on peut l'imaginer. Sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, notre Seigneur s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Il y a une façon de proclamer le règne du Christ-Roi qui n'est pas du tout compatible et conforme avec la royauté de notre Seigneur. Et je dirais même maintenant, nous pouvons, puisque le temps passe, les générations se succèdent, et nous pouvons même voir qu'il y a même un effet assez terrifiant à la proclamation de la nécessité du règne du Christ-Roi, une proclamation hétérodoxe, c'est que cela rend fou. Et non seulement cela rend fou, mais cela rend idiot. Et on voit des gens qui ont passé toute leur vie à crier sur les toits et qu'il fallait que le Christ règne, et qui terminent leur vieillesse dans une sénilité à peine croyable, où on prend, on se laisse happer par ces choses ahurissantes des QAnon et autres choses comme ça. C'est absolument, enfin ceux qui voient à quoi ça correspond, voient à quoi je fais référence, c'est absolument, on est là dans un état de sénilité qui dépasse les forces, si l'on peut dire, ou les faiblesses de la nature humaine. On est dans des cas de sénilité préternaturelle, peut-être même d'infestation. On parle du règne du Christ-Roi, on veut s'emparer de notre Seigneur pour le faire roi, et notre Seigneur, que fait-il? Il s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne. Les chrétiens, je ne parle pas de l'Église, car l'Église est l'épouse immaculée du Christ, mais les chrétiens et les catholiques ont vu s'enfuir notre Seigneur. Et ce n'est pas eux qui l'ont découronné, c'est lui qui n'a pas voulu être roi, leur roi. Tout au long du XXe siècle, on a voulu proclamer, ou faire proclamer par les nations, le règne d'un Christ-Roi qui devait être l'apogée de la civilisation, qui devait être la fin de tous les problèmes socio-économiques, qui devait être la fin des problèmes politiques. Et notre Seigneur s'est retiré. Notre Seigneur s'est enfui tout seul, de nouveau sur la montagne. Ce n'est pas les méchants, ce ne sont pas les subversifs qui ont infiltré l'Église. C'est notre Seigneur qui s'est retiré, car il ne voulait pas régner comme on voulait le faire régner. On voulait le faire régner, et encore aujourd'hui, on veut le faire régner, on retombe tout le temps dans la même ornière. On veut le faire régner pour qu'il nous multiplie à bon compte les pains. On veut le faire régner parce qu'il est utile à la société. Alors vous allez dire, est-ce que le règne de notre Seigneur n'est pas utile à la société? Lorsqu'on veut inféoder notre Seigneur au temporel, notre Seigneur se retire, il s'enfuit. Et lorsque, après Vatican II, on a encouragé la dissolution des concordats et des choses comme ça, qui sont une chose qui a fait beaucoup couler beaucoup d'encre et aussi qui a fait beaucoup de remous, mais c'était une conséquence naturelle, non pas de l'infiltration du modernisme, certes, sous un certain rapport de façon instrumentale, mais c'est tout simplement parce que le Christ s'est retiré. Parce que à force d'être fier, d'être chrétien, je suis chrétien, voilà ma gloire, etc., à force d'être fier, d'être chrétien selon la chair, nous sommes redevenus des enfants d'Agar, qui désirions simplement obéir à Dieu pour les promesses temporelles. Alors vous allez dire, mais votre discours est un discours spiritualiste, quiétiste, stratosphérique, qui n'a pas le sens des réalités. Comment ? Vraiment, mes très chers frères? Il n'a pas le sens des réalités? On veut que le Christ règne pour que l'ordre socio-économique et politico-culturel se rétablisse, et notre Seigneur s'enfuit. Il s'enfuit tout seul sur la montagne parce qu'il ne veut pas qu'on le fasse régner, il ne veut pas qu'on le proclame roi, n'importe comment. Le Christ se dérobe et se cache quand on veut le faire roi pour les avantages temporels de sa royauté. Et si vous regardez bien, toute ou quasiment toute l'apologétique des meilleurs, enfin c'est-à-dire de ceux qui se veulent les nucistes et autres religions non-nakoumistes, etc., enfin bon, ceux qui se prétendent vraiment les vrais catholiques, ils sont entièrement et explicitement les enfants d'Agar. Et encore, quand je dis les enfants d'Agar, je ne dis pas qu'ils sont sous l'ancienne alliance. Je dis qu'ils sont les enfants du diable qui veulent charnellement promouvoir le règne du Christ roi, règne que le Christ ne veut pas. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on ne sert Dieu, nous disent les théologiens, on ne servait Dieu que par la crainte des peines ou par l'espérance des récompenses charnelles, ce qui n'est pas le servir. Car on ne le sert véritablement que par la charité. Alors, j'entends des gens qui ricanent, qui disent « Ah, la charité, encore un libéral. » Oui, la charité, mes très chers frères. La charité, qu'est-ce que c'est? C'est pas le fait de faire des bisous aux gens, etc. C'est presque vous insulter que de le dire. La charité, c'est l'amour de Dieu. La charité, c'est le fait d'obéir à Dieu, d'obéir à Dieu en fonction de ses commandements, bien entendu, mais d'une façon qui soit réelle et non pas imaginaire. Bienheureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que nous disons. L'obscurité, mes très chers frères, s'épaissit chaque jour un peu plus par l'action des insensés qui s'imaginent éclairer les aveugles. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles et ils tomberont tous les deux dans une fosse. Malheureusement, nous ne le souhaitons pas, nous le savons. Mes très chers frères, la charité n'existe que là où l'ordre règne. La charité n'existe réellement, pas la charité imaginaire, l'amour de Dieu réel, avec toutes les bénédictions qu'il implique, toutes les bénédictions qu'il entraîne, toutes les bénédictions, nous disent les auteurs, même temporelles, dont il est porteur, la charité dont elle est porteur, la charité n'existe que là où l'ordre règne. Que Dieu nous fasse la grâce, mes très chers frères, en cette mi-carême, de comprendre enfin cela, de cesser de perdre notre temps, ou plutôt votre temps, et de produire enfin les fruits qui sont ceux des enfants de Sarah, qui sont ceux des enfants de la Jérusalem d'en haut, qui est libre et qui est notre mère. Bienheureux ceux qui ont des oreilles pour comprendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.